t'ai dit que Washington affiche également la volonté d'endiguer la récente vague d'autoritarisme et de coups d'État militaires en collaboration avec les alliés et les partenaires dans la région pour répondre au recul démocratique et aux violations des droits de l'homme. On sait que le terrorisme au Sahel a commencé dans les années 90 en Algérie, lorsque l'armée a chassé le président Chadli Ben Djedid au pouvoir. L'armée algérienne avait pris le contrôle des institutions de l'État pour annuler les résultats des premières élections législatives remportées par le parti islamique FIS. Comment endiguer justement cette situation d'autoritarisme et de non-respect de la démocratie?
Non, c'est important de l'endiguer parce qu'en réalité, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Mali et même ce qui s'est passé au Burkina, la crise sécuritaire a été aggravée par la crise politique. La question de la gouvernance est venue s'ajouter à la question sécuritaire, puisque comme vous savez, au Mali, le président Ibeka a été élu et après, la situation s'est dégradée à partir de 2020 lorsque la Cour constitutionnelle a donné des sièges au parti de Ibeka qu'il n'avait pas gagné dans les urnes. Ça a créé une contestation politique qui a conduit au mouvement du 5 juin, le M5, et c'est le mouvement du 5 juin, ces activités qui ont transformé la crise post-électorale en crise politique qui est venue s'ajouter à la crise sécuritaire. Et c'est ça qui a conduit au coup d'État de août 2021, le premier coup d'État. Et quand on prend au Burkina, on trouve le même schéma. Il y avait déjà une crise sécuritaire à laquelle est venue s'ajouter la contestation du pouvoir par la société civile, par les partis politiques. Donc, il est important que la lutte contre le terrorisme se construise sur un socle démocratique, parce que c'est ce socle démocratique qui permet justement de garantir le respect des droits de l'homme, de garantir la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de chaîne pénale pour juger les gens coupables de terrorisme, s'il n'y a pas de gouvernance, si on peut arrêter ses opposants en les accusant de terrorisme, comme on l'a vu dans certains pays où des opposants politiques ont été considérés comme des terroristes et jetés en prison. Donc si on ne construit pas la réponse contre le terrorisme sur un socle démocratique, sur une démocratie, c'est clair qu'on n'obtiendra pas de résultats. C'est important que, justement, on insiste aujourd'hui que les États-Unis, dans un cadre multilatéral avec l'Union africaine, avec la CEDEAO, puissent participer au renforcement de la démocratie, puissent accompagner la prise de pouvoir par les moyens démocratiques, par les moyens des élections. Cela me semble très important.
Nestor, sur la même question, comment le faire quand on sait qu'il y a maintenant différentes puissances, une offensive de différentes puissances sur le continent et qui n'ont pas la même vision sur cette question démocratique.
Oui, c'est vrai que l'approche de la Chine ou de la Russie n'est pas la même que l'approche américaine et des pays européens. Les pays européens, des États-Unis, généralement, ils prennent en compte la dimension du respect des droits humains. C'est important pour ces pays. Et je pense que la volonté affichée de Washington, justement, d'endiguer la vague d'autoritarisme et de coups d'État, va dans le bon sens de l'histoire. Vous savez, il ne faut pas oublier que les élections libres et transparentes sont une aspiration profonde et une revendication majeure, en fait, des peuples africains. Il faut qu'on se souvienne toujours que beaucoup de pays africains ont conquis leur indépendance par d'abord des luttes, des revendications d'indépendance, de souveraineté, mais que cela est passé par des élections libres et transparentes. Il faut aussi se souvenir que, de la même manière, c'est par les élections libres et transparentes que la parenthèse de l'apartheid a été fermée en Afrique du Sud. Donc, le droit de vote est un droit civique fondamental et généralement, c'est une aspiration universelle des peuples. Donc, il s'inscrit en réalité dans presque toutes les constitutions africaines. Donc, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que cette approche américaine sera un peu facilitée parce que la CEDEAO semble actuellement discuter beaucoup plus des calendriers pour des élections libres et transparentes dans les pays où il y a eu des coups d'État, notamment en Guinée, au Burkina et au Mali. Mais pour d'autres zones, comme par exemple la zone de l'EAC, East African Community, Et le cas emblématique du Burundi reste vraiment difficile à résoudre. Je dirais que le paradoxe est là, c'est que alors que justement l'Afrique avait réussi grâce d'abord à Nyerere puis à Mandela, faire en sorte qu'il y ait un pacte inter-burundais soutenu par la communauté de l'Afrique de l'Est, par l'Union africaine et par l'ONU, des accords d'Arusha. Ces accords ont été violés par le parti qui est arrivé grâce à ces accords, d'ailleurs, le CNDD-FDD. Et depuis, on assiste à un désastre humanitaire vraiment sans nom. Des centaines de milliers de réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en RDC, et plus de 9 000 prisonniers politiques, une milice qui quadrille le pays, l'extension de cette violence à l'est de la RDC et une résistance armée qui vient justement de cette mauvaise gouvernance, de ces coups d'État qui au Burundi s'est exprimé sous forme justement de violation de la Constitution et des accords d'Arusha. Voilà, donc là aussi l'approche américaine, elle est attendue et il s'agira de voir si elle est capable de mobiliser le East African Community, mobiliser l'Afrique du Sud, la Tanzanie, pour qu'elle remette sur la table le dossier justement des négociations pour la paix au Burundi entre l'opposition et le pouvoir. Voilà, donc il y a il y a du travail. On va suivre tout ça de près.
Monsieur Haïdara, sur la même question.
Je pense que moi, je vais me focaliser plus sur la région de l'Afrique de l'Ouest où effectivement il y a une croissance de coups d'État dans la région et qui se tourne en dérive dictatoriale. Actuellement, les pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso sont sous coup d'État vu l'évolution dans d'autres pays avec des manifestations en Sierra Leone. Et probablement dans d'autres pays, il y a de forts risques. Et les États-Unis, pendant longtemps, étaient plus préoccupés par des aspects pas forcément liés à la démocratie et à la gouvernance et aux droits de l'homme. Donc, je pense que l'attente est que de plus en plus, disons, la coopération entre cette partie du monde et les États-Unis doivent inclure cette dimension-là de la démocratie et des droits de l'homme dans le partenariat pour véritablement contribuer à la réduction de l'insécurité dans la région, mais aussi des risques de violations graves des droits humains dans le continent.